Une valise au nom de Colette a été retrouvée dans le hall. Sidonie Gabrielle Colette, merci de venir la récupérer. Alors, voyons voir. Dans la valise de Colette, il y a une photo de famille, une robe à col Claudine, une fleur séchée, une alliance, un sac de biscuits pour chien. Mais qu'est-ce que ces objets représentent ? Dans la valise de Colette, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.
Elle est belle cette photo de famille. On y voit Sidonie Gabrielle Colette, toute petite, au centre, encadrée par ses deux grands frères Achille et Léopold, qui bombent le torse en souriant. Sur la droite, sa grande sœur Juliette est un peu à l'écart. Sur la gauche, il y a ses deux parents, Sidonie et Jules Joseph. C'est dans cette famille si particulière que naît Sidonie Gabrielle Colette en 1873. Cette famille, on la connaît assez bien parce que Colette l'a évoquée dans plusieurs de ses livres. Dans Sido notamment, elle présente en trois parties sa mère Sidonie, surnommée Sido, son père Jules Joseph, surnommé le capitaine, Achille et Léopold, surnommés les sauvages, et Juliette, qu'elle appelle l'étrangère. C'est la première chose à savoir. La dimension autobiographique est très importante dans les œuvres de Colette. Sa mère Sido est une femme cultivée qui lui fait découvrir et aimer la nature et la littérature. Jules Joseph est un ancien soldat amputé d'une jambe, tendre avec ses enfants et fou amoureux de sa femme. Si sa sœur Juliette semble un peu à part, Colette évoque souvent ses deux frères, les sauvages, qui deviennent l'incarnation même de l'homme libre, échappant aux contraintes de la société. La famille a quelques soucis financiers et ne vit pas dans le luxe, mais cela importe peu à Colette, qui déclare avoir été
« une enfant très aimée, entre des parents pas riches et qui vivait à la campagne, parmi les arbres et les livres ».
En 1893, alors qu'elle a 20 ans, Colette quitte cette famille qui a tant compté pour elle et épouse Henri Gauthier-Villard, surnommé Willy, un journaliste et auteur parisien qui a 14 ans de plus qu'elle. Il va l'emmener à Paris, loin de la campagne, lui faire découvrir la vie à la capitale et les milieux artistiques. Colette vivra alors une vie de citadine pleine d'aventures et de fureurs, mais elle reviendra, plus vieille, vers sa campagne chérie, se remémorant aussi cette famille qui a joué un rôle central pour elle. Le souvenir de ses années de bonheur lui permettra de traverser bien des malheurs, notamment ceux que lui fera subir son mari Willy.
Ce qui nous amène à cette jolie robe au col Claudine. Le col Claudine, appelé col Peter Pan en Angleterre, est un col plat et arrondi, très populaire au début du XXe siècle. Et ce col si célèbre, allez sur internet si vous ne voyez pas à quoi il ressemble, a été rendu célèbre en France, presque malgré elle, par Colette. Mais revenons-en d'abord à son mariage avec Willy. Il faut savoir que Willy était très connu dans la vie littéraire parisienne. Critique et auteur, il permet à Colette de rencontrer beaucoup de grands artistes de l'époque. Malheureusement pour elle, Willy a deux gros défauts. Il gère mal son argent et se montre très infidèle. La jeune femme en souffre beaucoup. Se rendant compte des qualités littéraires de son épouse et sentant un bon coup à jouer, Willy demande un jour à Colette de raconter ses souvenirs d'enfance dans un livre. Cette dernière s'exécute, prenant plaisir à écrire et voulant rendre service à son mari, qui signera le livre de son propre nom. C'est en mars 1900 que paraît alors Claudine à l'école, un récit semi-autobiographique dans lequel Colette évoque la vie d'une jeune fille à la campagne, l'école, les amourettes, bref, le quotidien d'une enfant qui découvre la vie, mais dans un style naturel et présentant des éléments un peu sulfureux. Le succès est fulgurant. Le public adore Claudine et en redemande. Willy contraint donc Colette à écrire encore. Sort ainsi Claudine à Paris en 1901, Claudine emménage en 1902 et Claudine s'en va en 1903. Le succès est tel que l'histoire de Claudine est adaptée au théâtre. On vend même des objets dérivés de Claudine et des déguisements sont commercialisés. Claudine devient une figure culte, caractérisée justement par le col Claudine. Alors c'est peut-être moins coloré qu'un déguisement de Wonder Woman ou d'Harley Quinn, mais c'était très stylé à l'époque. Malheureusement, Colette profite assez peu de ce succès puisque Willy s'attribue la paternité de l'œuvre et en touche les droits d'auteur. La jeune femme va pourtant lentement s'émanciper. Elle a pris goût à l'écriture et publie, sous le nom de Colette Willy, Dialogue de bête en 1904. Elle devient ensuite comédienne et fait scandale en n'hésitant pas à jouer des rôles à la sensualité assumée. En 1910, enfin, elle se sépare définitivement de Willy, fière d'avoir conquis son indépendance. Cela a tout de même pris du temps, et lorsqu'on l'interrogeait à ce propos, elle expliquait que les nécessités matérielles l'y avaient contraint. « Ça me paraissait inévitable, car si j'avais voulu suivre mon penchant, il aurait fallu que je quittasse Monsieur Willy et que je retourne à ma famille. Je n'avais pas d'autre refuge. Or, je ne voulais absolument pas que ma mère découvrît que je n'étais pas heureuse. Et il y avait la nécessité matérielle. Je n'avais pas le sou, et ma famille non plus. Alors, je suis restée. Où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute. » Mais Colette est loin d'être une simple et pauvre chèvre, et elle va rapidement se changer en bélier.
Troisième objet, l'alliance, le symbole de l'amour éternel. Enfin éternel, on a dit que Colette avait quitté Willy, donc le caractère sacré de l'amour éternel, il faudra repasser. D'ailleurs, Colette a été mariée à 3 reprises dans sa vie et a eu beaucoup d'amants, hommes comme femmes. En effet, Colette aimait aussi bien les hommes que les femmes et l'assumait pleinement dans ses œuvres, comme sur scène ou dans la vie. Ce sont d'ailleurs ses amours pour la journaliste Madeleine Deslandes, puis pour Mathilde de Morny, qui lui auront permis de s'émanciper de Willy. Elle lui avait promis de ne pas le tromper avec un homme. Techniquement, elle n'a pas menti. Le parfum de scandale qui auréole alors la vie privée de Colette contribuera à la rendre célèbre. Nous parlions de la robe à col Claudine tout à l'heure. Il s'agit d'un vêtement attribué généralement aux petites filles sages. Eh bien Colette s'est par la suite appliquée à briser cette image lisse, se parant par exemple sur scène de tenues toutes plus sensuelles et légères les unes que les autres. Un peu comme les jeunes stars de Disney qui, en grandissant, cherchent à modifier profondément leur image publique. Il existe énormément de clichés superbes mettant en scène Colette dans toutes sortes de situations surprenantes. Allez voir ça. Colette vit ainsi intensément de son art et du journalisme. Elle épouse Henri de Jouvenel en 1912. La même année, elle perd sa mère. L'année suivante, elle accouche d'une fille. Bien vite, la Première Guerre mondiale éclate et Henri est envoyé au front. Pendant la guerre, Colette écrit des reportages sur le rôle des femmes durant le conflit. Finalement, son deuxième mariage finit mal lui aussi. Henri est infidèle et pour se venger, Colette entame une liaison avec le propre fils d'Henri, Bertrand. Il a 17 ans, elle en a 30 de plus. Tout en poursuivant son travail journalistique, Colette continue d'écrire, notamment 2 romans, « Chérie » et « Le blé en herbe », qui sont tous les 2 des succès. Elle signe enfin de ce seul nom, Colette. Dans ses textes, elle parle des relations d'une femme mûre avec un jeune homme. Autant dire qu'elle connaissait bien le sujet. Et jamais 203, un nouveau coup de cœur vient illuminer ses jours. En 1925, elle rencontre Maurice Goutquet, qui a 16 ans de moins qu'elle. Elle en tombe amoureuse et l'épouse en 1935. Il fut son dernier époux. La vie amoureuse de Colette se retrouve évidemment dans ses œuvres. De l'amour pudique mais puissant de ses parents dans Sido, à ses amours publics, en passant par les hésitations de Claudine. Sur 5 tomes, Colette a décrit plusieurs visages de l'amour, de ses balbutiements à sa mort. D'ailleurs, certaines de ses œuvres, comme Julie de Carnayan, abordent de front la question du divorce, encore tabou à l'époque. Car l'amour, comme les fleurs, peut dépérir et mourir. Une transition incroyable vers le prochain objet.
Une superbe fleur séchée. Et oui, parce que l'amour n'est pas l'unique thème qui occupe Colette, il y a également la nature. Initiée très tôt par sa mère à l'art de l'observation, les 2 femmes passent des heures entières dans leur jardin de Saint-Sauveur à s'occuper des fleurs, à écouter le vent, à regarder le ciel, bref, à vivre en communion avec la nature. Cette nature, on la retrouve magnifiée dans beaucoup de ses œuvres littéraires. Les vrilles de la vigne, le blé en herbe ou encore Sido font la part belle aux longues descriptions végétales. Le vocabulaire riche et technique montre que Colette sait de quoi elle parle. Cette célébration du monde naturel, déjà présente chez des autrices comme George Sand, devient une véritable poétique chez Colette. À travers les longs paragraphes dédiés aux paysages, aux éléments, à son jardin ou à la campagne, Colette dévoile toute l'importance des sens. La vue est excitée par les couleurs, l'odorat soulevé par les odeurs suaves, le toucher intrigué par la douceur d'un pétale, le goût frissonne à la morsure d'un fruit et l'ouïe s'émeut des chants d'oiseaux ou des baisers de la brise. La devise très journalistique de Colette était d'ailleurs « Il faut voir et non inventer ». manière de dire que toute la beauté du monde est déjà là, à portée de regard. Et c'est à travers cette vision sensorielle du monde que se développent de grands récits comme Sido ou Les Vrilles de la Vigne. Pour valoriser encore cette nature qui a bercé son enfance, Colette a d'ailleurs recours à quelques techniques bien connues. Un maximum de superlatifs, des hyperboles à foison, des adjectifs mélioratifs, des métaphores évocatrices et le tour est joué. L'embellissement de la réalité est assuré. Même si le sujet initial peut paraître banal, par exemple son jardin, c'est elle qui, par son talent d'autrice, le magnifie. C'est ce qu'elle confesse dans la nouvelle Un jour gris, quand elle écrit « Je t'ai parlé sans doute d'un pays de merveilles, où la saveur de l'air enivre. Ne le crois pas, n'y va pas, tu chercherais en vain. Tu ne verrais qu'une campagne un peu triste. » Une manière de dire que la nature est belle, mais uniquement pour ceux qui savent la voir. Et comme disait George Sand dans son poème « À Aurore », la nature est belle pour qui la voit. Elle est bonne à celui qui l'aime. Et c'est aussi la leçon que partage Colette.
Et enfin, le dernier objet, un sac de biscuits pour chiens. Ah, nos amis les bêtes ne sont pas en reste chez Colette. Campagnarde dans l'âme, elle a grandi au milieu des chiens et des chats, que l'on retrouve évidemment dans ses écrits. On pense bien sûr à Toby Chien, à Nonoche ou encore à Kiki la Doucette, chien et chat, qui occupent une place centrale dans certaines nouvelles des Vrilles de la Vigne, comme Toby Chien parle ou encore Dialogue de bête. Dans ces nouvelles, Colette donne la parole aux animaux, en profitant pour dresser le portrait parfois piquant de la société humaine, voire d'elle-même. L'animal est alors une altérité riche d'enseignements. L'animal est tantôt un confident, tantôt un ami qu'on embrasse. Mais la présence de l'animal peut aussi se révéler plus sombre, comme dans la déchirante nouvelle « Un rêve », dans laquelle une chienne revient d'entre les morts pour visiter Colette. Ingrate, l'autrice a oublié le nom de l'animal, condamné à retourner dans les ténèbres. Si les animaux n'ont pas toujours la parole chez Colette, ils n'en sont pourtant pas moins pleins de signification. Le rossignol emprisonné dans la nouvelle « Les Vrilles de la Vigne », par exemple, est probablement une projection de Colette elle-même. L'oiseau qui ne peut plus chanter, c'est la jeune femme ne pouvant plus s'exprimer. L'oiseau est prisonnier dans la vigne, comme Colette le fut dans son couple. Dans une autre idée, la sensualité de la chatte Nonoche évoque sans doute les relations amoureuses de l'autrice. Comme chez Baudelaire, le chat renvoie alors à la sensualité féminine. L'animal dans l'œuvre de Colette occupe aussi une fonction symbolique. On dit que les chats ont 7 vies. Colette doit tenir du chat. Autrice célèbre, première femme à avoir été nommée présidente de l'Académie Goncourt, femme du monde et de la campagne, récompensée par la Légion d'honneur, directrice d'instituts de beauté, chanteuse et danseuse, journaliste et actrice, elle mourut en 1954 et reçut des obsèques nationales. L'Église lui refusa une cérémonie religieuse en raison de sa conduite. Malgré tout, et comme Victor Hugo avant elle, la place où elle a vécu porte aujourd'hui son nom.
Colette est l'une des plus grandes figures de la littérature du XXe siècle. Entre gloire et scandale, elle a laissé derrière elle une œuvre riche et tendre, complexe et déroutante, abordant des thèmes d'une actualité saisissante. Enfant de la nature et créatrice célébrant la beauté du monde, elle aura profondément marqué la vie littéraire de son époque. Alors retenez bien ces 5 objets. La photo de famille pour l'autobiographie, le col Claudine pour la gloire littéraire, l'alliance pour l'amour, la fleur séchée pour la nature, les biscuits pour les animaux. Retenez bien ces objets et vous aurez une bonne idée de ce qui fait la puissance poétique des œuvres de Colette. Mais allez, refermons la valise. On ne sait jamais, elle pourrait vouloir la récupérer. Dans la valise de Colette, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.